Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Nous aurons trois lectures. Et la première dans Hébreux, au chapitre 13, les versets 7 à 9. Hébreux 13, les versets 7 à 9. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Le deuxième texte se trouve dans Galates, au chapitre 3, et nous lirons les versets 3 à 11. Galates, au chapitre 3, à partir du verset 3. Galates 3, verset 3, jusqu'au verset 11. Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquiez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi ». De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. » Jusqu'ici dans Galates, et nous allons pour un dernier texte dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, et nous lirons les versets 1 à 6. 1 Timothée 4, versets 1 à 6. Mais l'Esprit dit expressément qu'en de les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Le Saint-Esprit est le même du temps de l'apôtre Pierre et Paul, du temps d'Athanase et Augustin, du temps de Calvin et Luther, du temps d'Edwards et Spurgeon, et de notre temps. C'est le même Saint-Esprit sur lequel nous comptons encore aujourd'hui pour saisir et être guidés dans la connaissance de Christ. Alors nous continuons aujourd'hui la série sur l'identité théologique de l'Église locale, en Christ et humblement réformée baptiste. Notre identité en Christ est l'élément fondamental. Elle est en Christ, celui qui n'a pas changé, qui existait déjà avant le début de l'histoire de l'humanité et qui est devenu homme pendant l'histoire de l'humanité et qui restera même pour l'éternité. C'est en Christ que nous avons notre salut. C'est en Christ que nous avons notre salut, que nous trouvons notre joie, notre force, notre zèle, nos ressources et notre paix. C'est en Christ. Car ce Jésus-Christ, en qui ont cru tous les chrétiens de l'histoire de l'Église, une croyance qui n'a pas changé et qui est liée à l'évangile de base expliqué par les apôtres et annoncé par les prophètes. Il n'a pas changé. Le Saint-Esprit, par Paul, dès le début de l'histoire de l'Église, indiquait qu'il n'y avait qu'un évangile, celui de la grâce de Christ qui s'est donnée pour nous libérer de l'esclavage et du jugement dû à nos péchés. On a lu avant le texte dans Galates 3, 3 à 11, qui souligne justement qu'il y a un évangile, celui de Jésus-Christ et pas celui des œuvres. C'est la continuité que nous allons considérer aujourd'hui. En tant que réformés baptistes, nous ne pensons pas être les seuls dans l'histoire du salut à suivre Christ de manière biblique. Nous considérons également que Dieu n'a pas changé et que ce qu'il dit aimer et avoir horreur est stable de la Genèse à l'Apocalypse. Si la révélation est progressive, Dieu lui-même n'est pas progressif. Dieu n'est pas progressif. En fait, c'est l'hypothèse évolutionniste qui induit la pensée que nous passons de la stupidité à l'intelligence. Et cette hypothèse de l'évolution, en fait, pousse à appliquer cela à Dieu même dans l'inconscient collectif. Mais Dieu n'est pas créé par l'imagination de l'homme, qui aurait d'abord été polythéiste, cherchant des liens spirituels, en fait, etc., ce qui est appelé les religions primitives. Non, Dieu n'a pas changé, en fait, car il est totalement parfait dès le début. Il est totalement saint, il est totalement amour, il est totalement miséricorde, sa grandeur est infinie dès le départ et pour toujours. Notre premier point sera Jésus, un Dieu qui ne change pas. Et nous verrons ensuite que la théologie que nous cherchons à vivre en tant que réformés baptistes n'est pas une nouveauté. Notre croyance en Jésus et son œuvre est ancrée historiquement. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes confessionnels, que nous aimons avoir des confessions de foi, nous en parlerons. Rentrons dans notre premier point qui s'intitule « Jésus, un Dieu qui ne change pas ». Jésus qui est présent du début à la fin. Jésus est là dès le début de l'histoire du monde. Et là, vous connaissez bien ce texte dans Jean 1, hein, où il le dit clairement. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été créé et fait par elle, et rien de ce qui était fait n'était sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » En fait, Jésus était là et est là du début à la fin. Jésus est là du début à la fin. Et il le dit clairement dans Apocalypse 22, les versets 13 à 16, hein, si on va les lire, on le voit très clairement qu'il est là du début à la fin. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ce n'est pas moi qui ajoute, hein, c'est dans le texte. Donc, il dit trois fois ça. Hein. Et au verset 16, il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Jésus, dans sa divinité, n'a pas changé depuis l'éternité et pour l'éternité. C'est vrai qu'il a choisi de devenir homme. Et ce mystère de l'incarnation s'est produit lors de sa venue sur terre, et qu'on aime d'ailleurs rappeler dans ces temps de Noël. Depuis ce moment-là, Jésus, Dieu, est lié à Jésus, homme, n'étant qu'une seule personne avec deux natures. Jésus est pourtant un Dieu qui ne change pas. Il n'a pas des valeurs différentes que le Dieu présenté dans l'Ancien Testament. Jésus, homme, a parfaitement accompli la loi de l'Ancienne Alliance, une loi bonne d'ailleurs qui ne l'a jamais poussé à pécher. La loi n'a jamais poussé Jésus à pécher. Jésus reviendra et lors de son avènement, il jugera le monde selon les valeurs de Dieu qu'il est lui-même. Vous pouvez voir ça dans Jean 5, 22. Donc Jésus est là du début à la fin. Jésus, qui est Dieu, aime des choses et a des choses en horreur et continue à les avoir jusqu'à maintenant et pour toujours. Dieu, depuis le début de l'humanité, a donné des indications à l'homme de ce qu'il considère comme bon et mauvais. Et cela n'a pas changé. C'est toujours les mêmes choses qui sont bonnes et mauvaises. Dieu est parfait et totalement juste, saint, droit, bon et aimant depuis toujours et pour toujours. Rappelons-nous, Jésus est Dieu de toute éternité. Ce que Dieu indique qu'il aime dans l'Ancien Testament, il continue à l'aimer dans le Nouveau Testament. Et quand Dieu dit qu'il a quelque chose en horreur dans l'Ancien Testament, il continue à en avoir en horreur dans le Nouveau Testament également. Ce qui a changé, ce n'est pas Dieu, mais la manière de vivre ce que Dieu aime. Car Jésus-Christ est venu accomplir l'ancienne alliance sous laquelle nous ne sommes plus. Ce ne sont plus les lois qui nous tiennent dans la vie morale et bonne selon Dieu. Ce n'est plus les lois qui nous tiennent dans la vie morale et selon Dieu, mais la vie de Jésus-Christ en nous par son esprit qui aime ce que Dieu aime et a horreur de ce que Dieu a horreur. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est plus les lois qui nous font vivre comme Dieu le veut. Elles peuvent être utiles pour nous donner des indications. C'est la vie de Jésus-Christ en nous par son esprit qui aime ce que Dieu aime et a horreur de ce que Dieu a horreur. D'ailleurs, les 10 commandements lors du signe qui était donné au Sinaï, ce n'était pas une nouveauté. Il y avait déjà des éléments qui étaient présents avant. En fait, toute créature a reçu une conscience dans laquelle ses lois morales sont inscrites. Paul le dit dans Romains 2, les versets 14 et 15. Il dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi, donc les païens qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse et les défend tour à tour. » Dès la création, Dieu a mis des manières de vivre en place que l'on peut aussi appeler la vision du monde biblique. Et cela reste valable tant que Dieu ne change pas. Et comme il est éternellement parfait et immuable, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'il ne changera jamais. La vision biblique ne change pas. Elle est bonne. J'aimerais vous donner quelques exemples et vous pourrez essayer de voir quels sont les commandements qu'on y trouve. Je donne des exemples de ce qui a été dit avant le Sinaï, avant Moïse. Par exemple, quand Dieu dit à Adam qu'il vaut mieux lui obéir pour ne pas mourir. Ça, c'est un principe biblique. Il vaut mieux obéir à Dieu pour ne pas mourir. Ce principe, il est encore valable aujourd'hui. Il n'a pas changé. Quand Dieu bénit le septième jour et le sanctifie, dans Genèse 2, 3, c'est clairement en lien avec le cycle de 6 jours de travail et un jour de repos sanctifié. Sanctifié qui veut dire mis à part. C'est vrai que là, je prends un tout petit moment par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Il est vrai que le sabbat était aussi le signe d'alliance mosaïque que nous n'avons plus à vivre. Nous, on n'a plus ce signe d'alliance mosaïque, de cette ancienne alliance sous laquelle nous ne sommes plus. Christ a accompli et il nous entraîne dans ce sabbat, si on veut, de Dieu. Jésus nous a par contre donné des principes pour vivre le sabbat à son époque. À son époque, il a donné quelques principes qui nous sont utiles. Vous les trouverez dans Luc 6, 1 à 10 ou Matthieu 12, 1 à 13. Et là, je vais simplement le résumer en disant « Faisons ce qui est nécessaire, ce qui participe à la piété et ce qui manifeste la charité. » Voilà comment Jésus nous encourage à vivre ce sabbat. Nous aussi, faisons ce qui est nécessaire, ce qui participe à la piété et ce qui manifeste la charité. Si vous voulez prendre un peu de temps pour ce sujet-là, vous pouvez lire le chapitre 23 du Bon Fondement d'Olivier Favre qui explique cela un peu plus longuement. Étant donné notre identité qui est en Christ, nous cherchons à vivre selon ses paroles, les paroles de Jésus, vous êtes d'accord, c'est ses paroles qui font autorité. Et il dit dans Matthieu 22, non là dans Marc, il dit aussi dans Matthieu, mais dans Marc 2, 27, il dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, qu'il soit donc utilisé d'une manière qui manifeste que Jésus est le maître. Réfléchissons et veillons à vivre les principes des œuvres nécessaires, des œuvres de piété et des œuvres de charité. Alors, je ne peux pas vous démontrer maintenant, au niveau du temps, pourquoi nous vivons le dimanche et pas le samedi. Je dirais simplement que le dimanche est appelé dans le Nouveau Testament le jour du Seigneur, qui est le rappel de sa résurrection, qui est le signe manifeste de son œuvre de rédemption. Voilà. J'ai pris quelques minutes, hein, comme j'ai dit, pour ce quatrième commandement, qui est souvent des sujets de longue discussion. Alors, dans le cadre réformé baptiste, nous aimons mettre un accent particulier sur le dimanche comme un exercice de foi, de piété et de repos bienvenu. Et nous savons et constatons que Dieu bénit ceux qui lui consacrent ce jour, et nous sommes d'ailleurs reconnaissants pour la société dans laquelle nous vivons qui facilite le culte commun en Église le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pour ce sujet-là. Continuons à voir les principes que Dieu aime et qui sont indiqués même avant le Sinaï. Quand Dieu dit à Adam de cultiver et garder la création, ça on est dans Genèse 2 là, hein, ce principe du respect de la nature en tant qu'intendant est toujours encore valable. Ce que Dieu aimait dans le passé, il l'aime toujours encore maintenant. Quand Dieu fait à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêt, dans Genèse 3, c'est pour couvrir leur nudité. Le principe biblique de base de l'habit, c'est pour couvrir la nudité. Et ça reste toujours encore valable. Quand Dieu dit à Caïn de ne pas laisser le péché dominer sur lui avant qu'il ne tue son frère, indique déjà que la vie humaine ne doit pas être touchée. Et d'ailleurs, Dieu va le souligner du temps de Noé, hein, que la vie de l'homme est sacrée parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Hein, ce principe biblique de ne pas toucher à la vie humaine est toujours encore valable. Et Jésus, qui est Dieu, aime ce qui était dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament. On peut continuer avec Jacob, qui savait que la purification passait par l'évacuation de toute idole. Dieu devait avoir toute la place. Vous vous rappelez peut-être de cette histoire, quand il est avec sa famille, il leur dit à tout le monde, « Dotez les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux. Purifiez et changez de vêtements. » Il continue en disant, « Nous nous lèverons et nous montrons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » C'est dans Genèse 35. Donc Jacob avait cette notion qu'il fallait s'écarter de toute idole. On voit Joseph qui savait que l'adultère était un péché. Il l'a clairement dit à la femme de Potiphar. Si on regarde dans Genèse 39, il dit ceci, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il est conscient, on n'est pas encore au Sinaï. Mais Joseph savait que l'adultère était un péché. Alors, je vous laisse continuer l'étude pour trouver avant Moïse des indications concernant prendre le nom de Dieu en vain, l'honneur dû aux parents, le vol, les mensonges, la convoitise. On a des exemples, j'en ai, donc si on peut en parler tout à l'heure aussi. Mais cherchez pour voir dans la parole de Dieu que c'est déjà présent. Ce que Dieu aimait dans l'Ancien Testament, les principes, il les aime toujours encore dans le Nouveau Testament. Je pourrais maintenant m'attarder sur tout ce que Dieu a horreur dans l'Ancien Testament. On pourrait faire toute une liste. J'en prends juste un exemple dans le Proverbe 20, verset 23. Il est dit « L'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une bonne chose. » Dieu avait horreur de la tricherie dans l'Ancien Testament. Il continue à avoir horreur de la tricherie actuellement. Alors, je vous laisse le soin de faire la recherche de ce que Dieu a en horreur, sachant que Jésus est Dieu et qu'il vit en nous par son esprit et qu'il n'a pas changé de principe. Mais j'aimerais aborder un autre élément encore, c'est que Dieu ne change pas dans sa grâce également. On a parlé des lois, on a parlé de ces choses-là, mais Dieu ne change pas non plus dans sa grâce. Depuis le début de l'humanité, Dieu veut sauver et il est rempli d'amour en fait. Juste deux textes qui en parlent. Le premier, c'est le premier texte qui parle de cette œuvre de salut. On parle du proto-évangile dans Genèse 3,15, hein, quand il dit « Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme, hein, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » En fait, Dieu annonce dès après la chute qu'il va intervenir pour en fait écraser la tête du serpent et ainsi qu'il n'ait plus aucun pouvoir d'empoisonnement, si vous voulez. Cette notion du péché et de la mort qui est vaincue. Dans Genèse 3,15, c'est la délivrance du pouvoir du péché et de la mort qui est annoncée. Donc dans Genèse 3,15, c'est la délivrance du pouvoir du péché et de la mort qui est annoncée. Et le deuxième texte que j'aimerais soulever, il y en a encore beaucoup, après vous pourrez aussi faire tout le travail. Hein. Deuxième texte parle de la raison pour laquelle Dieu a choisi Israël comme peuple berceau du Christ, qui était appelé à vivre de manière à faire voir sa sainteté à tous. Hein. Dieu avait appelé un peuple et lui dit pourquoi, dans Deutéronome 7, les versets 6 à 8. Il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu ». Ça, c'est le but, hein. Il le dit clairement. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi toutes les nations qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la maison de la main du Pharaon, roi d'Égypte. C'est par amour que Dieu a choisi. Par amour que Dieu a choisi. Un amour qui n'a aucune origine dans celui qui est aimé, mais toute son origine dans celui qui donne un amour parfait. C'est un amour, c'est par amour que Dieu choisit. Un amour qui n'a aucune origine dans celui qui est aimé, mais toute son origine dans celui qui donne un amour parfait. C'est ainsi que Dieu aime celui qui vient à lui. D'ailleurs, on a dans 1 Jean 4, 19, ce texte qui dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Donc, une question qu'on peut avoir, c'est « Avez-vous déjà reconnu votre péché ?» Dieu n'a pas changé. C'est lui qui définit ce qu'est un péché ou pas. Hein ? Avez-vous reconnu que vous n'avez pas agi selon la demande du Créateur ? Et avez-vous déjà saisi la grâce et compris l'amour de Dieu pour celui qui se tourne vers lui ? Jésus a dit, on connaît bien ce verset que j'aime tellement, dans Jean 6, 37, qui dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à lui, repentez-vous de vos péchés. » Donc, demandez pardon pour les fautes commises contre Dieu, contre ses créatures, en se détournant des mauvaises pratiques. Et recevez la joie du pardon. Car Jésus est venu mourir sur la croix, ce qui était préfiguré par tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. On voit, il y a des préfigurations qui montrent Christ qui allait mourir pour nous. Jésus, le parfait, a payé pour tous ceux qui viennent à lui. Et là, nous changeons de roi. Avant, c'était le trompeur qui nous faisait croire que c'était nous les rois. Ça, c'est le trompeur. Il est roi, mais il fait croire que nous sommes les rois, alors qu'il fait tout pour nous détruire. Avec Jésus, c'est un roi bienveillant qui veut notre bien, qui ne nous promet pas une vie facile. Jésus n'a jamais promis une vie facile ici-bas, mais il nous a promis qu'il serait avec nous et qu'il nous prépare une place dans son royaume éternel où tout sera parfait. C'est intéressant de voir que Jésus, quand il est face au jeune homme riche, qui lui dit « Mais que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Que fais-je ? Que fait Jésus ? Il arrive directement avec les 10 commandements. C'est très intéressant. Pour indiquer comment nous sommes appelés à vivre concrètement en tant que membres du royaume de Dieu. Et dans le contexte de Luc 18 à 27, Jésus souligne ensuite que suivre ses commandements, c'est lui donner la direction de sa vie et trouver son contentement en lui. Va, vends tout ce que tu as. Ce n'est pas dans le sens qu'il veut de l'argent. C'est qu'il veut que cet homme lui donne toute la direction de sa vie et trouve son contentement en lui. Paul indique le lien entre l'amour et le commandement de Romains 13, 8 à 9. Il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. » Et Jésus, qui résume justement les commandements dans Matthieu 22, 37 à 40, reprend cet élément, mais il en met un autre avant, qui est fondamental. Quand il, quel est le plus grand commandement ? Il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et vous savez quoi ? Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime. Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime. c'est avoir horreur de ce qu'il a horreur. Et il ne change pas d'avis. Ça, c'est bien, parce que comme ça, on a une référence sûre. Et il ne change pas d'avis selon les courants philosophiques, politiques du moment. En fait, il est possible de savoir ce qui est bon et juste selon Dieu. Il est possible de savoir ce qui est mauvais et péché selon lui, parce que cela ne change pas. Alors, quand on vous dira maintenant que ce que Dieu aime et a horreur ne change pas, j'espère que ce n'est plus une question, mais une affirmation. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons d'ailleurs que les 10 commandements ont toujours tenu une place importante dans la base de ce que chaque chrétien devait connaître. En fait, il y avait 3 choses que tout chrétien devait connaître. Vous savez lesquelles 3 ? Bon, les 10 commandements, je viens de le dire. Le Notre Père, après Notre Père, et le symbole des apôtres. C'est 3 éléments fondamentaux. Et au prochain point, on va justement nous rendre compte que non seulement Dieu considère comme bien et comme mal reste inchangé, ce que Dieu considère comme bien et mal ne change pas, mais son enseignement également est stable. Pour cette partie, on va plus s'appuyer sur le Nouveau Testament, parce que nous vivons dans le temps de l'Église, qui est concernée, qui interprète toute la Bible, d'ailleurs aussi l'Ancien Testament, avec le Nouveau Testament. Alors la croyance centrale de la Bible concerne Jésus-Christ, je crois qu'on est d'accord. La croyance centrale de la Bible concerne Jésus-Christ et tout ce qui en découle. Voilà pourquoi j'ai intitulé le deuxième point « La croyance en Jésus est confessionnellement stable ». Il n'y a pas de changement. Et le texte de Hébreux 13 qu'on a lu tout à l'heure nous incite à prendre en considération ceux qui ont vécu avant nous. Hein, si on reprend, vous pouvez regarder dans vos Bibles, Hébreux 13, les versets 7 à 9, où il a dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ». Considérez l'issue de leur vie, imitez leur foi. Et là, il y a ce texte qui est dans ce contexte-là. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il y a un lien avec ce qui a été annoncé, l'enseignement. Et puis, continue en disant, « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. » Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est le même. Et si on nous présente un Jésus différent, nous entrons dans une doctrine étrangère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui ont vécu avant nous sont un modèle de foi, mais leur foi reposait sur un solide fondement. Ce n'est pas une foi comme ça, juste dans le vent. Elle reposait sur un solide fondement, Jésus-Christ. Et il est intéressant que tout de suite, dans ce texte d'Hébreux 13, il est question de ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Et un des moyens que Dieu a donné à son peuple pour ne pas s'égarer sont les credos. Ce mot vient du latin qui veut dire « je crois ». On les appelle aussi les règles de foi, les symboles, les formulations, les confessions de foi ou encore des déclarations. Et nous trouvons en fait dans la Bible déjà des textes qui peuvent être récités, qui sont comme des confessions de foi. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, qui est très connu pour les Juifs, qu'ils répètent très régulièrement, c'est ce qu'on appelle le Shema Israël, c'est dans Deutéronome 6, les versets 4 et 5, qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » C'est le fait qu'il y a un Dieu unique et que nous devons nous y attacher, qui est souligné ici. Un credo qui nous permet de nous en souvenir. Et Jésus reprendra d'ailleurs cette confession pour parler du plus grand commandement. On a le lien. Un deuxième credo, maintenant je vais dans le Nouveau Testament, c'est dans Colossiens. Alors si on va dans Colossiens au chapitre 1, les versets 15 à 20, on a là un credo qui indique la divinité et la rédemption de Jésus-Christ. Donc là on peut prendre ce texte pour ça, donc Colossiens 1, 15 à 20, où il est dit, c'est des affirmations. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Donc là, c'est une confession, ça décrit en fait hein, Jésus-Christ, son œuvre. On peut encore en prendre une autre dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 5, qui nous donne aussi comme un petit résumé, hein, si on veut, de l'œuvre de Christ ici. 1 Corinthiens 15, 3, « Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai reçu. » Et voici le résumé. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. » Cette confession de 1 Corinthiens 15, 3 à 5, est un mini-résumé, on pourrait dire, de l'œuvre de Christ. Et ce dernier texte nous fait déjà penser, en fait, au symbole des apôtres. Hein, on l'a déjà entendu, « Je crois au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », enfin, etc. Hein, qui a été écrit dans les premiers siècles et qui permettait de souligner les éléments sur lesquels la foi se basait. En fait, les symboles permettaient de poser par écrit des éléments importants, essentiels de la foi. Comme j'ai dit, notre foi, elle n'est pas vague. Elle se pose sur des vérités. Et c'est le cas pour le saint Paul dit des apôtres qui parle de Dieu le Père, de Jésus le Fils et du Saint-Esprit ainsi que de l'Église. Donc ça, c'est un fondement, on pourrait dire, que tout chrétien, tout croyant a comme base. Celui qui ne croit pas au symbole des apôtres, ben, il ne peut pas se considérer comme chrétien. Les symboles et formulations ou confessions de foi permettaient aussi de faire face aux fausses doctrines. En fait, c'est aussi souvent pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont été écrits, c'est pour faire face aux fausses doctrines, car il faut se rappeler que nous n'avons pas à chercher une interprétation personnelle du texte, tout en le vivant personnellement. On est appelé à vivre personnellement le texte, mais on n'est pas appelé à trouver une interprétation personnelle. Moi, j'ai la mienne, toi, t'as la tienne. C'est pas ce que la parole nous enseigne. On voit d'ailleurs ça dans 1 Pierre 20-21, où il est dit « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » En fait, il ne peut pas y avoir deux interprétations qui se contredisent ou qui s'excluent. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y en a une qui est fausse. Nous croyons qu'il peut y avoir des éclairages différents. Parfois, on a plusieurs éléments qui éclairent le texte et qui s'enrichissent, en fait, qu'il n'y a pas de contradiction. Ça, nous y croyons. Mais il n'y a pas de contradiction. Et nous devons chercher, en fait, l'interprétation du Saint-Esprit. C'est ce que nous désirons ensemble. Et ça demande aussi du travail. Et nous avons quelques éléments qu'on a aussi dans notre constitution. Nous parlons, par exemple, du symbole d'Athanase et des formulations de Chalcédoine au 5e siècle. En fait, ces textes nous aident à ne pas tomber dans une hérésie en lien avec une mauvaise compréhension de la Trinité ou de la double nature de Jésus-Christ qui est Dieu et homme. Bon, ça paraît un petit peu étonnant, mais c'est important. Parce que si nous ne croyons pas que Jésus est homme, nous ne sommes pas dans la foi. 1 Jean le dit. Si nous ne croyons pas que Jésus est Dieu, nous avons un problème. Nous ne sommes pas dans la foi en Jésus-Christ. Voyez ? Et cette notion de la Trinité, en fait, définit le Dieu unique que nous avons, le seul vrai Dieu. Alors, on ne va pas pouvoir faire tout le fil de l'histoire, mais nous pouvons être certains que ceux qui ont aimé la parole de Dieu, qui ont laissé former leur pensée par la parole de Dieu, ont été poussés à avoir un même contenu de foi. C'était un désir d'unité. Et je rappelle ici que c'est l'hypothèse évolutionniste qui nous fait croire que ceux qui étaient avant nous n'étaient pas aussi intelligents que nous. C'est faux. C'est faux. En plus, ils avaient le même Saint-Esprit que nous. Donc, ils n'étaient pas moins intelligents que nous, ils avaient le même Saint-Esprit que nous. Okay, donc ça, c'est un élément important à saisir dans notre monde, surtout qu'on nous bassine ces notions que ceux qui étaient avant, ben, c'était des gens primitifs. C'est faux. La Bible l'enseigne clairement que c'est faux. Donc on doit aussi, ça doit avoir des conséquences dans notre manière de voir aussi le passé, les confessions de foi et tout ça. Et au temps de la Réforme, cette recherche d'interprétation commune de la Bible s'est traduite par des confessions de foi plus élaborées qui permettaient en fait de poser des bases sur lesquelles construire. Or, dans nos documents de constitution de l'Église, a été faite il y a maintenant 20 ans, c'est la raison de cette série de prédications, eh bien, nous avons mentionné notre attachement à plusieurs confessions. La première, c'était la seconde confession helvétique, écrite par le Suisse Heinrich Bullinger. La confession de foi de La Rochelle, dont Calvin est un des auteurs principaux, c'est une confession que plutôt en France. Et la confession de foi de Westminster, écrite par 120 théologiens qui s'étaient réunis à Westminster. Ces trois confessions sont en fait des confessions réformées auxquelles nous attachons de l'importance, mais ce sont des confessions pédobaptistes, c'est-à-dire qui, pour le baptême des enfants. Et là, nous ne suivons pas ce qui est dit concernant le baptême des enfants, qui d'ailleurs, si vous allez lire ces confessions de foi, c'est très étonnant, parce qu'en fait, on explique ce qu'est le baptême, c'est exactement ce que l'on vit, et tout à coup, on dit qu'on peut baptiser les enfants. Et je dois vous dire, pour moi, j'ai un peu de la peine à faire le lien. La confession de foi historique qui nous est la plus proche et qui nous permet de placer un ancrage dans l'histoire avec un développement plus conséquent est la seconde confession de foi de Londres de 1689, qu'on appelle parfois la confession de foi réformée baptiste. Donc ça, c'est la confession historique, on pourrait dire, la plus proche de ce que l'on vit, qui nous permet d'avoir un ancrage historique. On n'est pas les seuls dans l'histoire à croire tout cela. Et donc, il nous permet aussi d'avoir des bases sur lesquelles on peut aussi grandir et progresser. Donc, c'est un document qui est dense, qui contient 32 chapitres, qui touche plein de sujets, tels que le chapitre 1, les Écritures saintes, le chapitre 3, la création, le chapitre 8, le Christ médiateur, 14, la foi qui sauve, le chapitre 21, la liberté chrétienne et la liberté de conscience, le chapitre 25, le mariage, le chapitre 32, le jugement dernier. Je ne les ai pas tous cités, vous comprendrez que ce n'est pas le but. Mais ça nous permet d'avoir un fondement sur lequel on peut être unis, des vérités qui ont été éprouvées dans le temps et que nous continuons de mettre à l'épreuve de la parole de Dieu, de l'Écriture. Il est important d'avoir la foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est clair, et la foi ne doit pas être vide. Elle doit se reposer sur des fondements bibliques solides qui ne fondent pas. Alors, pour venir plus proche de nous, dans l'histoire, nous pouvons aussi dire que, généralement, les réformés baptistes sont d'accord avec les déclarations de ces dernières décennies. Il y a une déclaration connue qui s'appelle la déclaration de Chicago sur le statut et les implications de la Bible face au scepticisme, qui a été écrit en 1978, 1982 et 1986. Donc là, c'est par rapport au fait que la Bible est commencée à vue de manière sceptique. On ne croit plus à tout ce que la Bible dit. Là, il y a des déclarations qui ont été faites. Deuxièmement, la déclaration de Denver en 1987 concernant le rôle de l'homme et de la femme selon la Bible face à la confusion grandissante de ces rôles. C'est des déclarations aussi qui sont utiles et importantes. Et la dernière, qui a été écrite en 2017, c'est la déclaration de Nashville concernant la sexualité selon la Bible, face à une grande confusion dans ce domaine actuellement, le genre et la sexualité. La déclaration de Nashville donne une ligne claire biblique. On les a vus d'ailleurs ensemble dans le cadre du groupe de jeunes dans le passé. Et je vous ai mis des liens pour ces documents pour pouvoir les consulter. Je vous encourage à les consulter, à les lire. Ça vous permettra aussi de fonder ce que vous croyez bibliquement dans ces domaines selon ce que la Bible enseigne. Vous savez, certains pensent qu'ils peuvent simplement se mettre seuls face à la Bible, pensant n'être influencés que par le Saint-Esprit. Je me mets tout seul, puis je suis que influencé par le Saint-Esprit. En ignorant que nous sommes formés par tout ce que nous voyons, entendons et réfléchissons. Tout ça nous influence. Celui qui va sur YouTube penser qu'il est maître des vidéos qu'il regarde, ne comprend rien à la notion des algorithmes qui vont lui proposer des vidéos en premier que lui, en fait, ne maîtrise pas du tout. Chercher à comprendre la Bible tout seul, sans se renseigner sur les présupposés théologiques qui soutiennent l'interprétation, c'est comme surfer sur Internet en pensant que vous êtes le maître à bord, alors qu'en fait, vous ne connaissez pas tous les sites qui existent et que vous n'avez aucun repère de quelque chose qui est vrai, solide, pour être capable ensuite de différencier ce qui est faux. Il vaut donc mieux connaître ce que nous croyons et nous assurer que nous avons une compréhension commune avec ceux qui ont cherché à être fidèles à la parole durant toute l'histoire de l'Église. C'est une des caractéristiques que nous aimons vivre dans le cadre réformé baptiste, avoir un socle bien posé pour adorer le Jésus de la Bible en qui nous trouvons notre identité, comme nos frères et sœurs dans le passé. Nous faisons partie d'une lignée de chrétiens fidèles au travers des siècles. Et nous ne sommes pas les premiers à croire en Jésus, homme et Dieu, en un Dieu formé de trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les premiers à croire dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ qui a tout accompli et qui est le fondement de notre assurance. Nous ne sommes pas les premiers ni les seuls à croire que Jésus-Christ va revenir pour juger le monde. Et si nous voulons vivre ce que Paul enseigne à Timothée, en 1 Timothée 4, 6, qu'on a lu tout à l'heure, nous avons besoin de nous nourrir de la bonne doctrine. Alors en conclusion, je continuerai à dire, désolé mais je le répète, que notre identité est en Christ. Notre identité est en Christ. Et notre façon de comprendre les Écritures, de vivre notre foi, est réformée baptiste. D'autres ont leur identité en Christ, mais ne sont pas réformés baptistes. Et pourtant, ont des mêmes convictions comme celles qu'on a vues aujourd'hui. Nous croyons que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Étant Dieu depuis toujours, Jésus, comme toutes les personnes de la Trinité, ne change pas. Il ne considère pas ce qui est bon et mauvais d'une certaine manière, puis ensuite d'une autre manière. Non, il ne change pas. Son jugement est parfait depuis le début de l'histoire de l'humanité qui est derrière nous, jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité qui est devant nous. Ce que Dieu aime dans l'Ancien Testament n'a pas changé. Et ça peut d'ailleurs être résumé. Vous savez que tout ce que Dieu aime dans l'Ancien Testament peut être résumé par une seule phrase. Et Pierre la reprend dans 1 Pierre 1,16. Voici cette phrase. « Vous serez saints, car je suis saint. » dit Dieu. Le plan du salut que Dieu a annoncé dès Genèse 3,15 s'est accompli en Christ et sera pleinement manifesté lors de son avènement. Nous avons des liens avec tous les croyants du passé et nous voulons plonger dans la parole de Dieu étant attentifs aux doctrines étrangères qui ont cherché à écarter ceux qui, avant nous, cherchaient à vivre selon la parole. Et aujourd'hui, nous avons besoin aussi d'écarter ce qui n'est pas selon la parole de Dieu. Vous vous souvenez, on a lu ce texte dans Hébreux 13, qui disait « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie. Imitez leur foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Attachons-nous humblement à Christ, reconnaissant pour tout ce que nous pouvons recevoir des témoins du Christ du passé. » Comme il est dit dans Hébreux 12, et là je vous invite à ouvrir vos Bibles et regarder ce texte. Ça sera la dernière chose qu'on fait ensemble dans cette prédication. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes tellement heureux de pouvoir nous baser notre foi sur des vérités qui ne changent pas. Parce qu'elles sont des vérités, justement. Des vérités que tu as permis tout au long des siècles, qu'elles soient parfois un peu mises en question pour encore mieux les expliquer. Pour mieux les saisir, pour mieux les comprendre. Je me prépare te prier de nous donner cette grâce, dans la lignée de ceux qui étaient avant nous, de te rester fidèles, quoi qu'il nous en coûte. J'aimerais te prier, Seigneur, de nous aider à saisir ce fondement que Jésus-Christ n'a pas changé, que tu n'as pas changé, que ce que tu demandes est la même chose que ce que tu demandais avant, et que tu veux le salut comme tu le voulais avant. Et nous te remercions parce que dans cette œuvre de rédemption que tu accomplis dans toute l'histoire humaine, Jésus-Christ est venu, a accompli ce sacrifice parfait et nous fait entrer dans ce chemin où Pierre peut dire la même chose que Moïse. Vous serez saints, car je suis saint. Et c'est notre désir, Seigneur, c'est de vivre dans cette sainteté. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais nous savons aussi que tu nous donnes les capacités pour les mettre à ton service, pour mettre tout ce que nous avons, toutes nos possibilités, toute notre énergie à ton service. Tu es notre roi, notre Seigneur. Nous te remercions aussi pour toutes les personnes du passé qui ont réfléchi face à des erreurs, face à des hérésies, face à des déviations qui nous auraient emportés loin de toi. Nous te remercions pour tous ceux qui ont fait ce travail dans le passé, qui nous aident par des documents qui nous sont utiles, qui nous poussent à revenir à ta parole, à la comprendre telle que toi tu veux que nous la comprenions. Et donne-nous la grâce, Seigneur, alors que nous sommes maintenant ceux qui sont sur terre, alors que nous avons la responsabilité de faire face aux erreurs qui sont actuelles pour que ceux qui viennent après nous puissent aussi y faire face. Donne-nous la grâce, Seigneur, de ne pas nous concentrer sur les erreurs, mais de nous concentrer sur les vérités vers lesquelles ces erreurs nous poussent. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de chérir ta parole, de l'aimer et de chercher à la comprendre toujours plus, d'avoir confiance qu'elle est vraie, qu'elle est juste, cohérente, et d'avoir confiance aussi que tu vas nous guider, tu ne vas pas nous laisser. Quelle grâce que tu l'as fait depuis le début de l'humanité, tu vas le faire jusqu'à la fin. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.